L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Marjan Abadi, une ancienne Alsacienne, c'est une Iranienne qui a quitté l'Iran en 1979 au lendemain de la Révolution. Elle est aujourd'hui installée en Belgique en qualité de psychothérapeute, experte en thérapie cognitive. Aujourd'hui, elle est cofondatrice du collectif Sirius et elle va nous expliquer en quoi ça consiste aujourd'hui et le lien qu'elle continue à maintenir dans son combat pour l'Iran. Marjan Abadi, bonjour.
Bonjour Valérie.
Ravie de vous recevoir pour votre visite ici à Strasbourg. Bon, je vois que c'est votre ville de cœur, que vous vous sentez un petit peu à la maison. Donc bienvenue ici dans les studios de Radio Judaïka où dorénavant c'est aussi votre maison. Vous êtes cofondatrice d'un collectif. Comment est né ce collectif et quel est son objectif?
Alors le collectif Sirius a pour objectif de œuvrer pour la paix et la prospérité en Iran et au Moyen-Orient. Nous partons de l'idée que la paix en Moyen-Orient ne peut avoir lieu qu'avec un changement de régime et des bases démocratiques, des bases dans le respect des personnes qui vivent en Iran, et que cela va forcément influer sur la paix au Moyen-Orient, parce que comme beaucoup de personnes commencent à le comprendre maintenant, les ressources de l'Iran sont utilisées malheureusement pour alimenter depuis 47 ans l'instabilité, le terrorisme en Moyen-Orient et dans le monde.
Quels sont vos moyens d'action au sein de ce collectif Sirius?
Alors, au sein du collectif Sirius, nous intervenons surtout en créant du contenu, informationnel, dans la mesure où l'influence de la République islamique au niveau des intellectuels et au niveau de nos médias a démarré bien avant la révolution islamique. Avant cette catastrophe, il y a eu un narratif qui a soutenu son avènement. Et nous revenons sur cette époque-là parce que je pense qu'il est essentiel de revenir sur qui était ces révolutionnaires, ceux qui disaient là où ils racontaient des cracks, pour être clair. Parce que malheureusement, ce qui a été raconté à ce moment-là, la vie dure. Par exemple, les révolutionnaires des années 70 en Iran avaient l'habitude de commettre des crimes et de les mettre sur le dos de Savak. Ou faire passer n'importe quel événement en disant que c'est le Savak qui a fait ça. Je vais vous en citer deux exemples. Avant la révolution de 79, ou en plein révolution de 79 plus exactement, les islamistes ont mis le feu au cinéma Rex à Obodon. Très rapidement, ils ont fait courir le bruit que c'était le Savak qui avait mis le feu brûlant vif entre 400 et 600 personnes. Rien ne justifiait cela, étant donné que les islamistes avaient cette habitude de mettre le feu dans des lieux qu'ils estimaient des lieux d'ébauche, des lieux d'occidentalisation, des lieux de détournement de la jeunesse, de la foi. Ils étaient coutumiers de ce type d'action, mais les journaux à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur ont repris ce narratif en l'attribuant à Savak sans attendre le moindre démenti ou qu'une enquête soit menée en bonne et due forme. Et des années après, les responsables de la République islamique, notamment les mollahs, sont revenus sur cette histoire et à la télévision iranienne, ils ont dit « Nous avons mis le feu au cinéma Rex à Obodon, parce que nous estimions que Obodon était une ville qui vivait de façon nonchalante et ne voulait pas se joindre à la révolution, et que ceci allait les faire bouger. Nous n'avons entendu aucun démenti, et donc c'est cette accumulation de contrefaits,
falsifications de l'histoire qui aujourd'hui encore reste dans la mémoire collective.
Exactement, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens m'interpellent. Mais le chat, il y avait le Savak. Imaginez-vous, les Français, si à chaque fois qu'on rencontre un Français, on lui dit « Oui, mais vous avez la DGSE, jamais ça ne viendra à l'idée des Français de dire que les personnes qui ont agi dans le cadre des attaques terroristes comme pour l'hypercacher ou Bataclan étaient des méchantes personnes ou ils ont agi dans un sens de défense du collectif vis-à-vis des terroristes et nous faisions face à du terrorisme.
Est-ce que ça c'est lié vraiment au Moyen-Orient, à une mentalité différente? Est-ce que nous, avec notre prisme d'occidentaux, on a besoin d'adaptabilité justement par rapport à cette façon de penser et à cette inversion de valeurs? Ou est-ce que les valeurs universelles, humaines, sont les mêmes, quel que soit l'Occident ou le Moyen-Orient?
Je ne pense pas que ce soit des valeurs inversées. Votre question me ramène à vous raconter une petite histoire qui pourra éclairer. J'avais un grand-père qui m'a appris à la poésie persane avant que j'aille à l'école. Et c'était quelqu'un de très... d'assez exceptionnel. Je me rappelle qu'on avait un poirier qui ne donnait jamais de poire. Il donnait des fleurs. Voilà, 3 semaines après, il n'y avait pas de poire dessus. Et donc, un jour, il est allé acheter 1 kilo de poire avec du ficelle. Il a accroché les poires à l'arbre. Pour lui donner l'habitude de porter des poires. Donc,
c'est un rire ému, là. Vous pensez à votre grand-père.
Oui, tout à fait. Donc, je ne pense pas que cette violence est intrinsèque au Moyen-Orient. Nous avions un roi, moi, Madrezo Choé par la vie, donc Choé un choix par la vie, qui a gracié la personne qui lui avait tiré dessus à bout portant. À l'issue de du dynastie Rojor, les Pahlavi ont pris le pouvoir, à aucun moment il y a eu des purges. Donc, nous avons eu dans le passé un passage extrêmement doux entre un dynastie dysfonctionnel, parce que les Rojor ne géraient rien, c'était les Mollahs qui géraient quasiment tout. Ils étaient en charge du juridique, c'est-à-dire la loi du charia. Ils étaient en charge de l'éducation. Ils étaient en charge également de toutes les intrigues de cours. Et donc, c'est ça qui a amené l'intelligentsia iranienne à souhaiter remplacer une monarchie non constitutionnelle par une monarchie constitutionnelle. C'est ça qui a donné naissance à Pahlavi. Mais il n'y a eu personne de Rojor qui a été exécuté.
Quel est votre lien, vous, aujourd'hui, avec l'Iran? Vous avez encore de la famille, des contacts? Vous avez pu vous y rendre? Vous l'avez quitté en 79, vous n'y êtes plus jamais retourné?
Alors, avant tout, c'est un lien de cœur. En effet, je l'ai quitté en 79. Beaucoup de gens vous diront qu'entre 79 et... quelques années après 79, on avait toujours l'impression que les Mollahs vont pas rester. Malheureusement, ils sont restés et bien restés. Avant 79, on entendait très souvent c'est des Mollahs, ils savent que prier. Une fois que le chat sera parti, nous allons prendre le pouvoir. C'était ça que disait notre gauche, qui n'était pas très différent de la gauche partout en Europe. Issus des années 68, des 68 arts, on avait ce vent de « on va tout casser et reconstruire » qui était là. L'Iran ne faisait pas exception. Et donc, ils ont tout cassé, mais pas réussi à reconstruire.
Aujourd'hui, quand vous faites un parallèle avec la montée des extrémistes de gauche ici en France, mais dans toute l'Europe, ça vous inquiète? Vous faites un parallèle avec ce qui a pu se passer en Iran?
Ce qui m'inquiète, c'est de voir la même vision qui est tellement influencée par l'idéologie, où les personnes ne semblent plus voir la réalité telle qu'elle est, la souffrance des personnes semble complètement déshumaniser celui qui est en face. Je me rappelle qu'avant 79, il y avait beaucoup de débats sur la façon dont Savak pouvait traiter les prisonniers suite aux attentats terroristes. Nous avions un certain nombre de personnes qui étaient affiliées à des groupes marxistes-léninistes ou marxistes-islamistes ou simplement islamistes qui étaient de fait des poseurs de bombes, des personnes qui attaquaient au couteau. Vous aviez ici les brigades d'armée rouge, c'était une époque où c'était très courant. Et ils étaient très soucieux de leur traitement en prison. À juste titre, est-ce qu'ils sont bien traités, pas bien traités? Mais ces personnes, ces mêmes personnes, après la révolution en Iran, semblaient non seulement pas soucieux des personnes qui avaient été faites prisonniers par la République islamique, mais faisaient partie des personnes qui encourageaient même les exécutions extrajudiciaires. Par exemple, un grand défenseur des droits de l'homme comme Loïgi, Abdelkarim Loïgi, qui est encore vivant, il a étendu un large réseau auprès de Chomsky et d'autres intellectuels en Occident avant la révolution, a beaucoup milité pour les droits des prisonniers en Iran. Nous avons des articles, des coupures de journaux où il est là à expliquer à quel point c'est bien d'exécuter et il faut y aller plus rapidement.
Des parallèles avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, pas dans la même mesure, mais qui peuvent inquiéter, qui vous inquiètent ?
Naturellement.
Oui.
Naturellement, quand je vois cet aveuglement, c'est-à-dire ce n'est plus ce qui est fait, mais qui le fait qui importe. C'est-à-dire à partir du moment où c'est les États-Unis de Trump, c'est forcément suspect. Si c'est les États-Unis d'Obama, c'est forcément bien. Alors qu'Obama a laissé une révolution en Iran finir dans un bain de sang, alors que les Iraniens criaient « Obama, Obama, ou t'es avec eux ou avec nous ». Et je vois qu'en France, par exemple, on ne juge pas, on ne décide pas si ça va nous toucher ou pas un jeune homme qui est roué de coups et qui meurt sous les coups, je parle de Quentin, mais plutôt quelle était son idéologie. Donc, on a des lunettes idéologiques et ces lunettes idéologiques nous déshumanisent. C'est ce que, en fait, Amin Maalouf, dans un magnifique livre, développe en disant les identités meurtrières. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est arrivé à ces identités meurtrières qui, plutôt qu'être porteurs d'une culture, des fêtes qu'on partage, des mets qu'on met en commun, est là pour nous déshumaniser les uns vis-à-vis des autres.
On va parler d'actualité, d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Le fils du chat, Reza Pahlavi, aujourd'hui, vous êtes comme 95% de la diaspora iranienne et les Iraniens du pays également, à demander, à vouloir, à souhaiter son retour.
Exactement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec les personnes qui ont créé le catastrophe de 79 et il n'a pas de lien avec les produits post-79, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui sont dans une certaine mesure dans l'opposition iranienne, les mêmes 5%. Nous n'avons pas de mesure exacte parce qu'avec un régime comme la République islamique, il est très difficile d'avoir les mesures exactes, mais en effet, quand il y a des élections en Iran, il y a difficilement 10%, plus proche de 5% de la population qui se déplace pour aller voter. Donc, on n'est pas loin de cette mesure-là. Et sachant que les jeunes sont extrêmement investis dans les mouvements de révolte, on peut même estimer que pour les jeunes, ce pourcentage est plus élevé. Reza Pahlavi, si on commence à l'écouter depuis qu'il a 20 ans, il dit la même chose. Un jour, il s'est tourné vers un journaliste en disant « Mon frère, ce que je veux faire, c'est mettre en place un système où toi qui es contre moi, tu puisses dire ce que tu veux dire librement. » Et il a gardé cette ligne-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est choquant, c'est qu'ici, on met sur un même pied d'égalité les 5% qui sont la plupart du temps, dans ces 5%, il y a des gens qui soutiennent clairement la République islamique en place, mais il y a aussi une partie qui est une opposition, mais une opposition préalablement stérilisée, c'est-à-dire qui ne pourra jamais aboutir à quelque chose. On les met sur le même pied d'égalité que les 95% et on leur donne même plus de voix, comme s'ils étaient plus importants. Ça, je pense que c'est la partie la plus choquante.
C'est la déconstruction du narratif qui a été mise en place en lien peut-être avec le narratif palestinien.
Alors j'aimerais revenir un peu en arrière parce que cette narrative pro-palestinien et un des piliers de la révolution de 79. C'est-à-dire, si on revient un peu en arrière, à partir des années 60, des islamistes qui avaient commencé bien avant, en lien avec les frères musulmans, à se radicaliser et à commettre des actions terroristes. Ils ont quand même tué quelques premiers ministres, ministres, à coups de couteau, d'intellectuels, comme Ahmad Kaslavi, qui a été massacré, découpé en rondelles dans les lieux, même du palais de justice à Téhéran. Ces gens-là avaient une tradition donc, de terrorisme bien ancrée, mais dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, il y a la création de l'OLP et ils ont des camps de base d'entraînement. Donc, nos islamistes, plus les marxistes-léninistes des Fadoyans du peuple, plus les Mojahidines du peuple, vont s'entraîner au même endroit. Ils ont les mêmes formations. Que ce soit des formations sur comment influencer, quoi raconter, comment le raconter, que comment manier une Kalachnikov ou comment créer un petit engin explosif dans sa cuisine. Et ils ont gardé cette proximité de cœur et de pensée après. Ce qui les reliait, c'était l'idée que l'Occident ne peut amener que du mauvais, qu'il faut combattre l'Occident et qu'il faut le remplacer par quelque chose. La plupart du temps, ils étaient influencés soit par les différents types de régimes communistes, la Russie, la Chine, à l'époque il y avait aussi l'Albanie, et soit par l'idéologie islamiste. Donc chez nous, cette idée que la Palestine a besoin d'être libérée par les armes, mais tous les autres pays également, vient de loin.
Une dernière question pour clore cette interview. Ma dernière question pour vous. Aujourd'hui, une intervention des États-Unis, enfin une intervention étrangère ou d'Israël, serait salutaire pour le peuple iranien ?
Serait non seulement salutaire, mais ce serait le sens même de l'humanité. Je ne comprends pas comment un pays comme la France, qui a bénéficié d'un sauvetage par les Américains, peut venir, et son président peut dire, dans les micros du monde entier, on ne sauve pas un pays avec une attaque militaire. C'est un non-sens absolu. Comment peut-on laisser un gouvernement capable de tuer, les chiffres varient, entre 33 000 et 100 000,
100 000 oui.
morts en deux jours. Sachant que derrière, il y a des personnes qui ont été blessées. On parle de plus de 300 000 blessés qui n'osent pas aller à l'hôpital, dont les plaies peuvent s'infecter parce qu'ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils ne vont pas aller dans les hôpitaux. Donc, comment peut-on prétendre qu'on peut négocier même avec ce pays ? Ce n'est pas des gens dignes qu'on leur serre la main. C'est le sens de l'humanité que de les empêcher de sévir plus.
Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir parlé avec votre cœur. Marjane Abadi, je rappelle, vous êtes la cofondatrice du collectif Cyrus. C'était un plaisir de vous avoir, un plaisir très instructif de vous avoir à notre micro ici dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg. Merci à vous.
Merci à vous pour cette invitation et pour le temps consacré à l'Iran. Et j'espère que nous pourrons retrouver notre joie de vivre, notre liberté de danser, de chanter et de construire un Iran qui regarde vers la prospérité et vers la fraternité et vers la joie.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.